Il est minuit 30 à Khartoum, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI. Arthur Ponchelet.
Et à la une de ce journal, nouvelle semaine de combats sanglants au Soudan. Les paramilitaires des forces de soutien rapide sont accusés d'avoir mené des attaques dans le centre du pays. Aucun bilan officiel, mais des sources locales font état de centaines de morts. Le Nord Togo, à nouveau le théâtre d'incursions de groupes armés. Le village de Malbongou, dans la préfecture du Pendjal-Ouest, a été visé dans la nuit de vendredi à samedi pour la deuxième fois en moins de deux semaines. Au sommaire également, on entendra Jean-Jacques Lumumba. Le lanceur d'alerte confirme son retour prochain en RDC après 8 ans d'exil. Il reconnaît quelques avancées en matière de lutte contre la corruption, mais estime que la bataille est encore loin d'être gagnée. Et puis du sport et ce coup de tonnerre pour le Tour cycliste du Faso. L'événement emblématique a été retiré du calendrier de l'Union cycliste internationale. En cause, la participation à la course d'une équipe russe. On vous explique tout à la fin de ce journal. On démarre donc cette édition au Soudan où les forces de soutien rapide, les FSR du général Hemeti, sont accusées de se livrer à des massacres de civils. Plusieurs attaques ont eu lieu ces derniers jours dans des villages de l'état du Gezira dans le centre du pays. Difficile d'établir des bilans tant l'accès au terrain est impossible et les communications coupées. L'ONG Sudan's Doctor for Human Rights recense 124 morts et de nombreux blessés. Je vous propose d'écouter le docteur Rania Souleyman, membre de Sudan Doctors for Human Rights.
La semaine a été sanglante dans cet état situé au sud de Khartoum. Parmi les villages attaqués, ceux de Al-Sahira et Azraq, selon le...
Ce n'était donc pas le docteur Rania Souleyman, membre de Sudan Doctors for Human Rights, qu'on va retrouver tout de suite. Je vous rappelle que cette ONG recense 124 morts et de nombreux blessés dans des attaques ces derniers jours dans des villages de l'état du Gezira. On l'écoute tout de suite, le docteur Rania Souleyman, qu'on va retrouver dans quelques instants. Je vous le disais, plusieurs attaques ont eu lieu ces derniers jours dans des villages de l'état du Gezira. On écoute le docteur Rania Souleyman.
C'est un massacre, un énorme massacre. Les forces de soutien rapide ont encerclé les villages et ont commencé à tuer des civils désarmés. Ils tuent de sang-froid. La plupart des victimes sont des personnes âgées, des femmes, des enfants. Ils tuent les hommes sous les yeux de leurs enfants. Ils violent les femmes sous les yeux de leurs maris et de leurs pères. Ils humilient, ils bafouent la dignité humaine. Les forces de soutien rapide pillent également les maisons, quoi que vous possédiez, de l'or, de l'argent, ils emportent tout ce que vous avez. Je n'ai rien vu de pire depuis le début de la guerre avec de telles images de gens enterrés en masse. Nous avons besoin d'une enquête. Il faut que ces gens rendent des comptes.
Le docteur Rania Souleyman, joint par Florence Maurice. Nouvelle incursion de groupes armés dans le Nord Togo. Depuis 3 ans, des villages situés dans la préfecture du Pendjal-Ouest sont régulièrement victimes d'attaques. Cette fois, c'est celui de Malbongou qui a connu une vague de violence. Plusieurs victimes sont à déplorer. Si tous les regards se tournent vers le Jnim, Sabine Mellet, ces attaques n'ont pas été revendiquées.
L'incursion a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Selon plusieurs villageois, des hommes armés sont entrés dans une concession où ils ont tué de sang-froid 8 personnes. Le propriétaire d'une maison qui abritait des déplacés d'un village voisin pour échapper à l'insécurité a été abattu ainsi que ses protégés. C'est la 2e fois en moins de 2 semaines que le village de Malbongou subit l'assaut des groupes armés. Quelques jours plus tôt, ils ont incendié des boutiques avant de disparaître dans la nature. Aucune victime n'avait été déplorée. Il ne se passe pas une semaine sans incident, c'est impossible, confie un habitant de la zone de Pendjal-Ouest. Ces derniers mois, cette zone est devenue l'épicentre d'incursions des groupes armés, contraignant de nombreux villageois à quitter leur maison à la recherche de sécurité dans des villages voisins. Les déplacés internes sont en constante augmentation. Conséquence, les champs sont abandonnés et les activités agricoles complètement paralysées.
Elle devient la 2e secrétaire générale du Commonwealth, originaire d'Afrique. La ministre des Affaires étrangères du Ghana a été nommée par les membres de l'organisation internationale qui regroupe 56 pays à travers le globe. Shirley Ayorkor Botchwe débute un mandat de 4 ans, une fonction qu'elle a notamment décidé de dédier à la question des réparations de la traite d'esclaves. RFI Accra, Victor Cariou.
Shirley Ayorkor-Botchway porte une vision d'inclusivité et de progrès qui, je le sais, inspirera la famille du Commonwealth. Voici la réaction du président ghanéen Nana Akufo-Addo au lendemain de l'élection de sa ministre des Affaires étrangères à la tête de l'organisation intergouvernementale. Elle succède ainsi à la diplomate britannique Patricia Scotland, première femme à occuper ce poste, et devient, après le Nigeria, la deuxième représentante du continent africain au secrétariat général. Une fonction que Shirley Ayorkor-Botchway entend donc dédier à la mise en place de réparations pour les pays victimes de la traite d'esclaves. Elle a par exemple plaidé ces derniers mois pour que les États membres du Commonwealth, dont plus d'un tiers sont africains, s'expriment d'une même voix sur le sujet. C'est d'ailleurs à Accra que, en novembre 2023, s'était tenu un sommet international pour la réparation de l'esclavage. Une question qui a fait l'objet de tensions entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies lors de ce sommet des chefs d'État du Commonwealth. Ce dernier s'est toutefois conclu ce samedi par une déclaration commune des 56 chefs d'État, le communiqué indiquant, je cite, qu'il était temps d'avoir une véritable et honnête conversation sur de futures réparations. Victor Cariou, Accra. RFI.
Le ministre des Affaires étrangères ukrainien poursuit, lui, sa tournée sur le continent. Après l'Angola, Andriy Sibiga était au Caire aujourd'hui, où il a rencontré son homologue égyptien. Objectif, promouvoir le plan de Kiev pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères est attendu ce dimanche en Afrique du Sud. Il met fin à 8 ans d'exil en France. Jean-Jacques Lumumba confirme son retour prochain en RDC. Le lanceur d'alerte et militant anticorruption est attendu à Kinshasa le mois prochain. En 2016, ce petit-neveu de Patrice Lumumba avait exposé un scandale majeur impliquant la famille de Joseph Kabila. Une révélation qui lui avait valu des menaces de mort et l'avait forcé à quitter le pays. Alors son retour marque-t-il la fin de la corruption en RDC ? Lumumba reconnaît quelques avancées, mais estime que la lutte est encore loin d'être gagnée.
Il y a eu certaines autorités locales qui ont décidé de me faciliter le retour. Par là, j'aimerais remercier une personnalité comme M. Jules Adingueté. C'est le patron de l'inspection générale des finances qui a été parmi les gens qui se sont battus pour que je puisse retourner au Congo. Je sais que le contexte reste particulier et j'ai choisi de rentrer au Congo pendant ce contexte particulier où mon pays vit une situation très difficile, une situation d'agression et de guerre. Et je crois que c'est aussi le moment où, dans des moments difficiles, qu'il faut aller aider son pays. Et je reste très solidaire de mon peuple qui souffre et qui traverse des moments très compliqués. Pour ma sécurité, la situation reste assez tendue, mais certaines autorités ont plaidé et ont soutenu à ce que je puisse revenir et dans des conditions beaucoup plus sécurisées que celles que j'ai dû quitter le pays. Mais je reste très prudent sur ma sécurité et je vais veiller et je crois que le bon Dieu veillera sur moi.
Le militant anticorruption Jean-Jacques Lumumba, joint par Christina Okello pour RFI. Un mot de sport avant de refermer ce journal avec ce spectaculaire déclassement. Le Tour cycliste du Faso, dont la 35e édition se dispute actuellement, est retiré du calendrier de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. En cause, Thomas de Saint-Léger, la participation à la course d'une équipe russe invitée par les organisateurs.
Sur ce point, le règlement de l'Union Cycliste Internationale est clair. Pas d'équipe russe ou bélarusse au départ d'une course UCI, mesure en vigueur depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a plus de 2 ans et demi, et forcément connue des organisateurs du Tour du Faso. Ceux-ci ont pourtant convié, au départ de la 35e édition de leur course, le CSKA Moscou et son maillot floqué Russian Army, armée russe en français. L'UCI est mis au courant avant le départ de la première étape et demande immédiatement le retrait de cette équipe. Un courrier officiel est adressé. Il restera lettre morte. L'instance mondiale a donc pris hier la décision de retirer l'épreuve de son programme. D'autres mesures disciplinaires pourraient suivre. Et même si la deuxième étape s'est disputée normalement aujourd'hui, cette mise au ban du calendrier officiel pourrait avoir de lourdes conséquences. Course référence en Afrique, le Tour du Faso souffrait ces dernières années de la situation sécuritaire du pays. L'édition 2022 avait même dû être annulée. L'épreuve survivait depuis sur sa réputation et sur le maintien du label UCI, indispensable à l'attractivité du Tour. Son avenir, aujourd'hui, s'inscrit en pointillé.
Thomas de Saint-Léger du service des sports de RFI. Il est minuit, bientôt passé de 40 minutes, ici dans nos studios à Paris. Tout de suite sur RFI, c'est la suite du débat africain. C'est avant de retrouver Mathis Slimano pour le prochain journal international. L'information africaine revient, elle, à 3h30, temps universel. Très belle soirée, à l'écoute de RFI.